Slate Podcast.
Riviera Ferraille. Slate France présente l'agenda du loisir français. Je m'appelle Henri Michel et cette semaine encore, nous allons découvrir les événements les plus drôles de Facebook, les plus originaux. On va voir tout ce qui se passe dans notre bel hexagone. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'agenda, à laisser des commentaires super sympas et positifs sur iTunes. Vous savez, c'est important pour un petit podcast, parce que oui, on est un petit podcast, de laisser des avis positifs pour qu'on puisse exister dans les classements. Et puis, j'ai eu deux avis négatifs sur Twitter. Alors, les avis négatifs, c'est toujours important pour moi. Alors, le premier avis négatif, c'était sur ma voix insupportable. Ça, je peux rien y faire. Je suis né comme ça. Je suis né avec ce nez, avec ce palais. Et sur la musique. Alors, la musique, vous savez, si j'avais mis de l'accordéon dans cette émission, on trouverait ça ironique. Si j'avais mis de la musique techno-minimale, des choses pointues, on trouverait ça ironique aussi. Alors, je me suis mis dans la place d'un animateur FM qui présenterait un agenda loisir et j'utiliserais exactement cette musique. Voilà. Donc, cette musique, je l'aime et je l'assume. Alors, une autre critique aussi qui était assez dure, hein, c'est quelqu'un qui s'est bien défoulé, qui m'a traité de parisien, puant, moqueur... froid, détestable, etc. Alors, je suis super serein par rapport à ça. Déjà parce que ça fait 39 ans que je vis en région et que les régions, c'est une partie importante de ma vie. Et ensuite, qu'on peut pas faire 10 émissions d'affilée sur ces événements et ces loisirs sans aimer profondément toutes ces choses. Je vais jusqu'à appeler des offices du tourisme pour avoir des renseignements. Je m'intéresse vraiment aux événements. Et puis, là où je suis serein aussi, c'est qu'on ne peut pas parler en France des régions et de nos événements locaux sans être étiqueté soit de bébête à la Jean-Pierre Pernaut, soit de faf nationaliste qui met en avant le terroir bleu, blanc, rouge, soit d'ironique de parisien puant. Voilà. Il n'y a pas de place pour parler avec sincérité, avec sourire des événements qui touchent à nos traditions, qui touchent aux choses que l'on a vécues dans nos régions, si vous venez des régions. Et quand vous revenez dans votre terroir et que vous allez aux fêtes locales, et ben vous y allez, vous adorez, et puis vous avez le sourire. Parce que des fois, il y a des éléments un petit peu ridicules, un petit peu drôles, et c'est ce mélange de joie et de gêne qui fait qu'on aime ce pays et qu'on aime là d'où l'on vient. Et c'est pareil qu'on soit français ou d'ailleurs, quand on vient dans son bled. Et même sur les séances de chamanisme ou les personnes un petit peu allumées qui ont des théories qu'on partage pas forcément, c'est avec le même rire bienveillant que vous pourriez avoir pour une tata qui lit dans le marc de café ou dans les culottes sales. Voilà, c'est exactement la même chose. Alors, impossible pour cet agenda de réussir à tout caser dans les 15 minutes d'émission, tellement le programme est chargé. Je sais pas pourquoi, alors si je sais pourquoi, c'est parce que ça correspond à la fin de l'hiver, on est un mois avant l'équinoxe de je sais pas quoi, et qu'il y a beaucoup de salons, de festivals et de traditions dans les villages, un petit peu partout, donc gros programme. On commence avec quelque chose qui n'a rien à voir avec le folklore, c'est sculpture géante de ballons et atelier créatif à Roufiac-Tolosan, c'est en Haute-Garonne, au centre commercial Roufiac-Tolosan. Lundi 19 février 2018 à 10h. Donc venez admirer des décors géants faits en ballon, mais aussi des créatures fantastiques. Et vous pouvez participer à des ateliers créatifs. Alors c'est vrai qu'il y a tout un milieu de ce qu'on appelle les ballooners, à ne pas confondre avec les looners qui sont des fétichistes du ballon de baudruche. Là, les ballooners, c'est des gens qui font de la sculpture sur ballon de baudruche. Alors je me suis rendu dans un forum pour voir un petit peu l'ambiance et je n'ai pas trouvé de clash. Par contre, j'ai trouvé des dialogues très rigolos. Fil de discussion entamé par Nippon. Bonjour à tous. Dans la sculpture sur ballon, je me posais une question car je n'y arrive pas. Comment faire une queue d'un animal avec l'extrémité du ballon restant? Comment faire pour faire une petite boule? En fait, je sais le faire avec la bouche, mais je ne trouve pas ça très hygiénique. En gros, que faire quand on est bloqué à cette étape-là pour faire une drôle de queue? Réponse de Magique Ludovic. Il faut faire une bulle à la base et puis la pousser vers l'extrémité en appuyant dessus. Pas facile à décrire par écrit. Réponse de Paul Magie. Il faut aspirer l'extrémité non gonflée. Oui, je sais, il n'y a pas trop et tu fous la queue dans ta bouche, mais bon. Essaye, ça marche. Réponse de Nippon. Oui, mais comme je le disais, dans certains cas, je ferai des ballons dans les hôpitaux et je crois pas que ça soit bien vu. Réponse de Carabas. C'est un peu difficile à expliquer, mais je ferme ma main à la place de la queue. Avec le pouce, je guide l'air, sans trop comprimer le ballon. Réponse de Bruno Maggi. Pas facile à dire. Premièrement, préparez le bout du ballon en étirant le latex. La main gauche attrape à pleine main le ballon gonflé. On laisse dépasser de la main droite juste le bout de la queue. L'air monte mais ne gonfle pas la partie haute car la main droite l'empêche. Et au miracle, tu auras la queue qui gonfle. Une fois fait, t'étires un peu le ballon pour que la bulle reste. Et voilà. Et maintenant, nous allons à Toulouse pour une soirée Jean-Luc Godard avec Saad Chakali. C'est mardi 20 février 2018 à la librairie Floury Frères à Toulouse. Alors Saad Chakali, c'était l'assistant de conservation à la médiathèque Édouard Glissant du Blanc-Mesnil et critique de cinéma autour de son livre Jean-Luc Godard dans la relève des archives du mal. Le résumé est un peu technique. Nous croyons qu'elle énonce la vérité cryptique d'un artiste engagé dans la relève poétique des images dont les citations finissent par former le corpus de l'archive godardienne. J'ai expérimenté la puissance dialectique d'un montage, à la fois disjonctif et conjonctif, battant et rebattant plus d'une image pour débattre du sens critique lors de leur démontage et remontage. Alors ça, forcément, bon, bah, c'est un événement à Toulouse, on parle de cinéma, mais bon, le cinéma, c'est pas très important. Moi, je peux vous conseiller d'autres événements qui ont lieu, et c'est bizarre parce que tout le monde se fait des câlins en ce moment. Un atelier câlin à Paris, le 20 décembre, où on va se toucher du regard, puis du bout des doigts, sentir, s'étonner, c'est du cinéma pour moi, c'est sentir ce qui est juste. À Paris toujours, journée tendresse pyjama, avec des jeux relationnels pour développer son aptitude à communiquer ses désirs et un espace de tendresse libre. On me dit que je mens, mais on ne ment pas avec un câlin. Et à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, au jour de la Saint-Aimé, eh bien quelqu'un qui veut faire des câlins. Alors il dit, je distribue des câlins gratuits dans les rues de Chalon, qui même me suivent. Rendez-vous à 15h à la cathédrale avec des pancartes. Et puis ça me rappelle ce plan de Rome ville ouverte avec cette cathédrale. Et puis sauf qu'il n'y avait pas de câlin parce que la Paramount voulait pas. C'était comme ça qu'on faisait du cinéma. Alors c'est vrai, dans une émission précédente, je vous parlais des signaux faibles que je peux voir en regardant tous les événements qui parcourent Facebook en France sur une semaine donnée. Et il y a vraiment un truc autour de ces séances de câlins, quoi. Je me demande comment ça marche, parce que c'est mixte en plus, mais ça doit être très très dur de dissocier la caresse de la sexualité. Alors, si vous êtes auditeur ou auditrice et que vous avez déjà participé à ces séances de câlins, votre témoignage m'intéresse beaucoup, parce que moi, c'est vraiment un mystère pour moi. Alors maintenant, on va à Roquebaron pour une méditation voyage dans les annales akashiques. Alors, le pitch est compliqué aussi. Hein. Alors, je vous invite à découvrir une de vos mémoires de vie antérieure au cours de ce voyage dans les annales akashiques. C'est un voyage méditatif canalisé après avoir reçu les enseignements de Serge Boutboul et suivi une formation aux thérapies quantiques. Elle commence par une ouverture complète du chakra du cœur, puis une préparation énergétique en nettoyant ses corps subtils, une sortie par le corps causal, la porte du cœur, ainsi qu'un appel de vos guides afin d'être conduit en totale sécurité devant l'entrée de la bibliothèque du savoir universel. Venez expérimenter ce voyage avec Clotair, qui vous emmène au cœur de vos mémoires et surtout vous guide pour les couper, les comprendre, les libérer, avec l'aide de l'archange Raphaël, tout simplement, qui vous assistera lors du retour dans la grande bibliothèque akashique. Réservation par MP ou au 06, je me demande si c'est le numéro de portable de l'archange Raphaël. Et maintenant, nous nous rendons à Douai, Nord-Pas-de-Calais, pour le salon des véhicules de loisirs. Salon de l'occasion des véhicules de loisirs. Alors, c'est un salon avec des camping-cars, des caravanes, des mobil-homes et des sociétés de financement sur place pour découvrir un petit peu cet univers qui a une image assez sereine, festive, une belle communauté. Alors, j'ai voulu m'en rendre compte en me rendant sur un forum et j'ai trouvé un fil de discussion assez tonique. Poste de Carman, qui insère des photos de pneus éclatés, en titrant « Les dégâts sont impressionnants ». Réponse de Laïka. « Bonjour, Quelle est la raison de cet éclatement? Sous-gonflage? Vieillissement? Objet sur la route? Réponse de Marcolino84. Oui, ça arrive souvent sur autoroute et pour 99% des cas, c'est des pneus pas adaptés au camping-car. J'ai discuté avec un dépanneur sur autoroute, il m'a dit chaque fois, c'est des pneus camionnettes qui éclatent. Réponse de Le Pintier. Bonjour. Afin de stopper toute polémique sur le choix d'un pneu, je peux vous affirmer que les pneus de camionnette sont adaptés au fourgon. Je roule sur des pneus de fourgon depuis plus de 10 ans et jamais je n'ai eu d'éclatement ou quoi que ce soit. Réponse de Phil23. Bonjour, nous ne parlons pas de fourgon qui est une camionnette superbement aménagée, mais de camping-car qui n'ont pas les mêmes contraintes sur la route. Donc en accord avec ce dit Marcolino, si je me réfère au site officiel Michelin, les agiles campings supportent de plus fortes pressions de gonflage. Réponse de l'AIK38. Bonsoir. D'accord avec toi, Le Pintier, mais on va pas revenir là-dessus, on s'est déjà pris de travers avec plusieurs colistiers à ce sujet, il y a quelques temps. Pour info, il y a 12 ans que je roule avec des Bridgestone camionnettes, indice 104 ou plus, et il n'y a jamais eu de problème. Réponse de Louis57. Bonjour. Mon fils, qui est responsable de l'atelier pneus chez Goodyear, me dit de monter des pneus camionnettes sur le camping-car. Donc je monte des pneus et puis c'est tout. Je lui fais confiance, c'est son boulot. Réponse de Bob11. Bonjour, responsable d'atelier ne veut pas forcément dire compétent et conscient. Chez Narbonne Accessoires aussi, il y a des spécialistes et des responsables d'atelier. Pourtant, sur les forums, beaucoup dénoncent leur incompétence et parfois même, au vu de leur travail, leur inconscience. Réponse de Sergio64. Mais quand est-ce que tu vas arrêter d'être aussi désagréable? J'ai éclaté deux fois, dont la dernière au mois de février, un mois de réparation, et tout ce qui a été cité plus haut dans ce sujet est parfaitement exact. Tu es médisant vers le fils de Louis, qui lui est professionnel et qui de plus est poids lourd. Qui es-tu pour juger son savoir? Tu le connais? T'es pro du pneu? Rien de tout ça. D'autant plus que tout le monde s'accorde pour dire que tout au plus la différence entre pneus camionnette et pneus camping-car réside dans la rigidité des flancs, rien de plus. 47 ans dans quoi pour te permettre de tels jugements? Parce que moi, 30 ans d'ancienneté dans l'aéro-civil militaire et le spatial ne m'ont pas encore permis d'avoir un jugement désagréable avec des personnes qui exposent leur expérience et leur savoir. Demeure plus humble, s'il te plaît. T'es bénévole, nous aussi, nul n'est détenteur du savoir suprême. Et si au détour d'un message, quelqu'un raconte une bêtise, ce n'est pas la peine de l'écraser avec ta vérité. Message de Gavroche. Bonsoir. Reconnais Bob que t'es parfois gonflé, notamment quand tu parles de pneus. Alors, on continue en mitraillette. Il y a tellement d'événements. Alors, le salon de l'agriculture, bien sûr, samedi 24 février. Le salon médiéval fantastique au parc expo de Rouen, samedi 24 février à dimanche 25 février. Il y a aussi la fête de l'ours dans les Pyrénées orientales. Alors ça, c'est une sacrée tradition qui se déroule dans la région du Haut-Val-Espire en Languedoc-Roussillon. Et ça se déroule seulement dans trois villes. Alors, excusez-moi si je les écorche. Arles-sur-Tèche, Prats-de-Molo et Saint-Laurent-de-Cerdan. Et en fait, les fêtes de l'ours opposent les hommes et les femmes. Les hommes sont déguisés en ours et envahissent les villages en simulant l'enlèvement des femmes et jeunes filles. Ça donne lieu à des courses-poursuites à travers la rue, mais aussi à des confrontations avec un troisième type de personnage, les chasseurs. Le rituel se termine toujours de la même manière, on rase l'ours et il se retransforme en homme. C'est des pratiques très anciennes et c'est une grande tradition la fête de l'ours. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une contre-fête de l'ours plus inclusive où on ne poursuit pas les femmes à Paris, au musée de la chasse et de la nature. Alors, avec Ovidie, Joyce Sormand, Viviane Perret-Multer, des figures d'ours féminins, puissantes et maternelles sont à l'honneur. Marrant, on parlait de Carmen dont on change la fin. Là, c'est une fête, on fait une contre-fête plus inclusive autour de cette cérémonie ancestrale. Alors ensuite, on peut aller à la fête du romarin à Dourgne dans le Tarn. Ça aussi, c'est une fête vraiment typique sur la ville qui remonte au 13e siècle où on défile avec du romarin, voilà. Il y a la fête de l'escargot à Chevigny-Saint-Sauveur en Bourgogne. Sinon, je vous conseille aussi d'aller, alors là, grosse fusion, festival de la soupe portugaise en Alsace, à Sainte-Croix-en-Plaine. Alsace, où d'ailleurs, il y a la fête des jeunes agriculteurs du canton de Bischwiller. Il y aura de l'animation. En autre fusion marrante, il y a un week-end tahitien à Ploudalmézo, en Bretagne. Voilà, donc il y a du ukulélé, il y a des cours de danse tahitienne. Voilà, ça a l'air très sympa. Eh ben vous savez quoi? Eh ben j'ai réussi à tout caser. Je suis content parce que c'était bien rempli pour cette semaine. Oh, on aurait pu parler aussi de la nuit du sanglier à Lunac dans les Midi-Pyrénées. Il y a eu un gros délire trip aussi en Basse-Normandie à Lonlay-l'Abbaye et dans le Languedoc-Roussillon toujours au Besson. Il y a aussi le repas des gours en Savoie. Les gours, c'est une sorte de quenelle de pommes de terre typique savoyarde. Il y a du lard, il y a de bonnes choses dedans. Et si vous voulez manger de bonnes huîtres à Paris qui viennent en go fast de leur habitat naturel et puis chanter au karaoké, il y a aussi le Paris Oyster Club qui refait une édition, cherchez sur internet. Je vous souhaite une excellente semaine entre amis, en famille. Prenez du plaisir, mangez bien, buvez bien. À la semaine prochaine.